Avant d'aborder l'état et la vie du clergé au diocèse de Bayonne en cette deuxième partie du XVIIIe siècle, nous nous arrêterons quelques instants sur la question de sa formation. Depuis 1720 environ, il existait à Bayonne un grand séminaire. Nous en avons raconté l'histoire. Et l'édifice, nous le savons, n'appartenait pas au diocèse, mais à la congrégation de la doctrine chrétienne. C'est là que les futurs prêtres devaient désormais se préparer au sacerdoce. Selon les dispositions des statuts synodaux de 1749, les aspirants au sacerdoce venaient y suivre 3 années d'études théologiques exigées avant l'ordination. S'ils avaient suivi ces cours ailleurs, ils devaient passer au moins 6 mois au séminaire de Bayonne pour se préparer au sous-diaconat, ensuite 3 mois avant le diaconat et autant avant la prêtrise. Dès ses débuts, le séminaire de Bayonne remis entièrement aux religieux de la doctrine chrétienne, s'était révélé un centre actif des idées jansénistes, ce qui avait entraîné des réactions assez vives des évêques successifs, sauf, bien entendu, celle du fondateur, Mgr Druillet, acquis aux idées jansénistes, et cela jusqu'à sa fermeture provisoire par Mgr de la Vieuville. Depuis, même s'il avait repris ses activités, même si les doctrinaires donnaient des gages de leur orthodoxie et de leur volonté de travailler dans la ligne tracée par l'Église, les responsables du séminaire n'avaient jamais pu reconquérir la confiance des évêques de Bayonne. Mgr d'Arche ne cherchait pas à cacher ses réticences à leur égard et ses préférences pour le séminaire de la Ressort. En 1767, à propos de l'enquête ordonnée par le roi au sujet des communautés religieuses du royaume, Mgr d'Arche écrivait à l'archevêque de Reims qui présidait la commission chargée de ce travail. On leur a toujours laissé depuis la fondation du séminaire les séminaristes, mais cependant, on a établi un nouveau séminaire gouverné par des prêtres séculiers où on élève la jeunesse et où on laisse même quelques ordinants. Ce dernier suffirait et serait bien plus propre à former de bons et fidèles ministres. Et Mgr d'Arche ajoutait, « Je l'aurais même déjà établi en un seul séminaire, mais je crains que si j'ôtais mes séminaristes aux doctrinaires, ils n'envoyassent ici de mauvais sujets capables d'y semer le trouble et la division. » La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut une accusation de jansénisme portée contre un professeur du séminaire en 1783, accusation qui s'avéra exacte. Mgr d'Arche réagit vivement et décida de retirer tous les étudiants au séminaire de Bayonne pour les confier à celui de la Ressort. Le nouveau supérieur du séminaire, le père Denux, s'empressa pourtant de faire dans le personnel enseignant les changements qui s'imposaient. Rien n'y fit et le père Denux se retrouva bientôt seul avec un unique compagnon dans une maison vide. Mais selon les accords de fondation, la chapelle du séminaire devait servir d'église de secours pour les habitants du quartier. Les pères de la doctrine assurèrent ainsi le service religieux jusqu'à leur expulsion en 1792. Le gouvernement révolutionnaire s'empara alors des bâtiments. La décision de Mgr d'Arche ne pouvait que favoriser et même réjouir M. Daguerre à la Ressort et en même temps le mettre dans l'embarras. Le réjouir, non pas pour des questions de concurrence, mais pour des raisons pédagogiques. Selon les prescriptions des statuts synodaux, nous venons de le dire, les séminaristes qui avaient fait 3 ans d'études théologiques, par exemple à La Ressort, devaient se rendre au séminaire de Bayonne pour parfaire leur formation avant de recevoir les ordres majeurs. M. Daguerre avait remarqué les inconvénients de ce système. C'est au moment le plus décisif que les élèves de La Ressort étaient enlevés à des maîtres qui les connaissaient bien, puisqu'ils les avaient suivis et formés jusque-là, pour être confiés à de nouveaux maîtres qui ne les connaissaient pas du tout. Monseigneur d'Arche remédiait donc à cet inconvénient majeur en confiant tous ses séminaristes à M. l'abbé Daguerre. Mais en même temps, il le mettait dans l'embarras. D'autant plus que Monseigneur de Révol, évêque d'Oloron, lui demandait le même service et pour des raisons semblables. Par conséquent, il devenait urgent pour La Ressort de s'agrandir. En 1762, M. Daguerre avait projeté d'acheter une propriété située aux portes de Bayonne et qui appartenait à la mère d'un de ses collaborateurs, M. Diars, devenu curé de Cambous. Le projet échoua pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la formation des séminaristes. Mais M. Daguerre ne renonçait pas à cette délocalisation. Celle-ci lui paraissait indispensable. À la mort de la reine douairière d'Espagne, Marie-Anne de Neubourg, le château de Marac qu'elle possédait aux environs de Bayonne fut mis aux enchères avec une propriété adjacente appelée Saint-Michel. 3 acheteurs se présentèrent. Curieusement, les pères de la doctrine, à qui Monseigneur d'Arche venait d'enlever ses séminaristes, se mirent donc sur les rangs, ainsi qu'un baïonnet nommé M. de Picot et M. l'abbé Daguerre, qui vit là un moyen providentiel de réaliser son projet. C'est ce dernier qui emporta les enchères et il obtint l'aval du roi d'Espagne. Mais M. de Picot intrigua si bien auprès du Conseil royal et suprême de Madrid que celui-ci décida, malgré la première décision, de lui attribuer le domaine de Marac. Mais 6 ans après, le château était de nouveau en vente et ce fut l'évêque de Bayonne, Monseigneur de Villeviel, qui s'emporta acquéreur dans les conditions que nous avons relatées la dernière fois. En 1781, M. Daguerre, qui avançait en âge, reçut un coadjuteur. Et 4 ans après, en 1785 donc, il mourait dans les conditions que nous avons également évoquées au retour d'une ordination qui s'était faite à l'évêché, ayant fait à pied le trajet de Bayonne à La Ressort dans le froid et sous une pluie battante. Il contracta une congestion pulmonaire qui devait l'emporter en quelques semaines. Quelle était la formation donnée au séminaire de Bayonne? Il est bien sûr difficile de le dire. Il est cependant permis de penser qu'elle était rigoureuse sur le plan moral et spirituel. Les jansénistes l'étaient. Loin de la morale relâchée attribuée aux jésuites. Sur le plan théologique, sans doute, les pères de la doctrine glissaient-ils aisément vers les thèses de Jansénius et de Saint-Cyran concernant l'universalité du salut et l'existence de la grâce suffisante, vérité que les jansénistes n'admettaient pas. Nous venons de dire en tout cas les réactions de Monseigneur d'Arche. De même pour le séminaire de La Ressort, on y enseignait certainement que Jésus-Christ était mort pour tous les hommes et que chacun recevait une grâce suffisante pour se sauver. On devait y souligner le sérieux d'une vie chrétienne conforme à l'Évangile. Sans doute, les valeurs d'oraison et d'ascèse prenaient-elles le pas sur les valeurs intellectuelles, mais celles-ci étaient loin d'être négligées. Au cours de son voyage à Paris, M. Daguerre avait rencontré les pères de Saint-Sulpice ainsi que M. de Calvé, le supérieur du séminaire de Toulouse. Il va donc encourager les élèves de La Ressort à se rendre dans ces deux villes pour y parfaire leurs études de théologie. Ainsi d'ailleurs que dans les universités étrangères où les prêtres basques allaient traditionnellement, Coimbra au Portugal, Alcala en Espagne et surtout Salamanque. C'est de cette manière, écrit le biographe de M. Daguerre, qu'il a cru d'une manière prodigieuse dans le diocèse de Bayonne le nombre des ecclésiastiques instruits. Les noms de plus de 150 prêtres, parmi ceux qui allèrent ainsi étudier au loin, nous ont été conservés. Et dans ce nombre, nous n'en connaissons qu'un seul qui ne soit pas rentré dans son diocèse après avoir terminé son cours d'études et avoir reçu le bonnet de docteur. C'était Jean Dolabide, d'Ainois, qui occupa avec distinction une chaire à l'université d'Alcala où il avait d'abord étudié. Nous verrons la prochaine fois quelle était la vie des prêtres dans notre diocèse en cette seconde moitié du XVIIIe siècle.